Créodyssée. Voyager et se perdre dans la création. Un podcast présenté par Géraldine Jojou et réalisé par Éric Blanc.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Créodyssée, le podcast consacré au processus de création et à ceux qui accompagnent ce processus, le favorisent ou imaginent un cadre spécifique à son développement. Pour cet épisode, nous allons explorer les coulisses, les rouages, la grande scène d'un festival qui s'intitule « Lire perché dans l'arbre », un festival organisé par l'association Le Cerf à trois pattes et qui se situe dans le village de Germaine, au cœur de la montagne de Reims, pas loin d'Épernay et de la ville de Reims. Dans ce petit village de 580 et quelques habitants, une énergie particulière, une sève, circule, donnant naissance à cet événement qui, au fond, est l'aboutissement d'un long travail. Alors, pour comprendre comment cet arbre a pu pousser, tendons d'abord notre attention vers ses racines. Comment s'élabore un tel projet ? Eh bien, c'est une histoire d'hommes et de femmes qui ont une idée, qu'ils vont nourrir jusqu'à qu'elle donne cette structure résistante et lieu d'accueil pour tous.
Bonjour, donc bonjour Claude Gamichon. Donc on est ici au festival Lire perché dans l'arbre et c'est la première et donc on aimerait comprendre d'où vient ce festival et on va devoir venir un petit peu en arrière sur une association qui est à l'origine de tout ça, qui est le Cerf à trois pattes. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette association qui est donc située à Germaine et quels sont ses buts, ses objectifs ?
Alors le Cerf à trois pattes est une association donc née en 2018. L'origine, c'est la fermeture du dernier commerce de Germaine. Devant cette situation, les habitants ont souhaité trouver une solution qui permette de rouvrir un commerce. Et donc on a créé cette association avec trois objectifs, hein, donc rouvrir un commerce de proximité, développer des activités socioculturelles et touristiques et ouvrir aussi un bistrot rural. Donc on constitue ainsi une sorte de tiers-lieu rural, hein, on se définit un petit peu comme ça, hein, un tiers-lieu rural, donc ayant vraiment comme objectif général, hein, de renforcer le lien social, de créer du lien, de créer de l'animation dans le village et au-delà, puisque on s'adresse, on a la volonté de s'adresser non seulement au village, mais aussi à la totalité des habitants de la communauté de communes, voire des habitants du parc naturel de la montagne de Reims.
Ça comprend beaucoup de communes, cette communauté de communes ?
La communauté de communes comprend 14 communes à l'heure actuelle. Voilà, ça fait 15 000 habitants.
Dans la montagne de Reims, globalement ? Autour de la montagne de Reims ?
Non, c'est autour de la montagne de Reims. Enfin, c'est la montagne de Reims. Hein, c'est la grande vallée de la Marne, la communauté commune de la grande vallée de la Marne.
Donc le cerf à trois pattes, on comprend. Les trois pattes, c'est les trois piliers, c'est ça ?
Voilà, les trois pattes. Voilà, le cerf, c'est parce que c'est... Germaine est un village au milieu des bois. Hein, donc le cerf est un animal... qu'on voit peu, mais qu'on entend beaucoup, surtout en période automnale avec le brame. Donc c'est un peu un animal emblématique du village, hein, puisqu'on est au milieu des bois, comme le cerf vit dans le bois. Et puis, trois pattes, donc effectivement, pour les trois pattes d'activité, les trois axes de développement de l'association.
Alors, on arrive à aujourd'hui, donc aujourd'hui, enfin depuis hier plutôt, ou même depuis cette semaine, le festival que vous avez donc imaginé avec vos collaborateurs a démarré. C'est une première. Pourquoi un festival dans ce type d'association ?
Alors, déjà, parce que notre objectif, c'est de développer des activités socio-culturelles, donc c'est tout à fait dans nos missions. L'idée était aussi de créer un événement convivial, de rencontre, un peu dans le contexte de la crise sanitaire, où on avait quand même été privé de beaucoup de relations, d'échanges, d'activités culturelles, et donc de créer un événement qui regroupe tout cela et de venir un peu en soutien au monde du spectacle, des arts, et de développer cet axe-là.
À la fois les artistes de la région, mais peut-être au-delà ou pas.
Alors après, effectivement, la thématique hein, qu'on a choisie donc autour de l'arbre nous a amené à contacter effectivement des auteurs régionaux, locaux, régionaux, et aussi venant de toute la France, de manière à prendre en compte les différents aspects de la thématique.
Alors pourquoi cette thématique? Vous l'avez un petit peu expliqué tout à l'heure, la position du village, enfin la situation géographique, mais est-ce qu'on aurait pu imaginer d'autres thématiques, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur?
C'est quelque chose qui nous tient à cœur, parce que la région Champagne-Ardennes, et surtout la montagne de Reims, elle est très marquée par l'aspect viticole, hein, par le développement de tout un certain nombre d'actions autour de l'œnologie, autour des activités viticoles. Mais c'est aussi une zone de forêt importante. Et donc, on souhaite rappeler ça, parce que, voilà, et être un petit peu les porteurs de cet aspect de la région et de la montagne de Reims, qu'est la forêt et les activités que l'on peut pratiquer en forêt. Donc nous, on développe dans toutes nos activités, le festival entre autres, mais aussi les randonnées nocturnes qu'on peut organiser, des ateliers de découverte qu'on peut organiser, une thématique forêt-nature pour être en complément aux activités viticoles, œnotouristiques qui peuvent exister. Voilà.
Vous avez centré ça sur la lecture? Il y a une raison particulière?
L'idée de départ était effectivement, a été au départ de faire un salon du livre. Et puis après, en y réfléchissant ensemble, hein, puisqu'on est une équipe qui avons réfléchi à tout cela, on s'est dit, bon, c'est bien un salon du livre, mais finalement, c'était peut-être un peu limité. Comme on est quand même à l'écart des grandes, on n'est pas dans une grande ville, est-ce que les gens vont faire 20 km ou 30 km pour faire dédicacer quelques livres? Et puis, point final. Donc, il faut élargir un petit peu de manière à ce que les visiteurs puissent passer quelques heures et avoir des activités, des découvertes, des animations qui leur permettent de rester quelques heures à Germaine et de dire, bah oui, le déplacement vaut le coup parce que... Je vais faire dédicacer tel ou tel livre auprès de tel ou tel auteur, mais j'ai aussi un spectacle, un atelier, une exposition, une conférence où je peux aller. Et donc, oui, le déplacement vaut le coup.
Voilà. Sans compter donc les nouveaux espaces que vous avez ouverts, donc en fait pour l'occasion aussi, donc à savoir le bistrot et la boutique.
Voilà, oui, sans compter. Alors c'était aussi une manière c'est aussi une manière de faire fonctionner hein, et de rendre vivant la boutique, le bistrot pour tout un chacun. Parce que notre objectif au niveau de l'association aussi, c'est d'être autonome sur le plan financier. Donc il faut que les différentes activités se développent et soient complémentaires de manière à pouvoir assurer le financement autonome de l'association.
Alors justement, je vais rebondir un peu sur ce que vous venez de dire. Mais cette association, ça comprend combien de personnes, combien de bénévoles, combien d'équipes peut-être plus restreintes pour pouvoir lancer le projet?
Alors, au total, on est une quarantaine de bénévoles. Voilà. Après, il y a des personnes qui viennent nous donner en plus un coup de main, comme par exemple au festival, qui sont venus pour monter les chapiteaux. Mais sinon, il y a une quarantaine de bénévoles.
Tous issus de Germaine.
Alors principalement de Germaine. Hein, et puis il y en a quelques-uns qui habitent dans les villages alentours, Mareuil, Avenay, Auvillé, voilà, qui sont un petit peu.
Vous avez du mal à les recruter ou c'était facile?
Non, c'est des personnes qui sont là depuis le début du projet et qui continuent 3 ans après à être actifs dans le groupe. Et on élargit un petit peu, petit à petit, on gagne un petit peu en, en nombre de bénévoles. Après, au niveau de nous, du fonctionnement, on a des fonctionnements par groupe. Donc, il y a un groupe qui s'occupe de la boutique, un groupe du bistrot, un groupe du festival. Et donc, le festival, c'est une dizaine de personnes qui se sont mobilisées depuis presque un an pour construire le festival, voir la programmation, l'organiser, réfléchir à comment on allait fonctionner au moment du festival.
Est-ce que vous avez trouvé ça compliqué à mettre en place ? Est-ce que vous avez eu besoin de conseils extérieurs ?
Alors c'est vrai que dans le groupe ce groupe de bénévoles, on bénéficie de la présence de comédiens professionnels, donc qui eux sont souvent sur participent souvent à des festivals en tant que professionnels et donc ont pu nous donner des outils et des conseils sur la manière de procéder. On a aussi des bénévoles qui eux-mêmes sont des festivaliers réguliers dans différents types de festivals et donc on savent les erreurs à éviter ou les bons trucs à reprendre vu dans un festival auparavant ailleurs. Donc on bénéficie de tout cet appui. Toutes ces ondes positives, tous ces appuis. Et puis on fait aussi appel à la MJC intercommunale d'Aï qui, donc par le biais de son directeur, qui nous dépanne ou qui nous conseille sur des aspects techniques que l'on ne maîtrise pas forcément. Enfin, qu'on maîtrise
par rapport
pas,
au spectacle, par exemple.
Par rapport au spectacle, hein, le choix du le spectacle d'hier, hein, de Volpinex, hein, de théâtre Volpinex.
Ils sont si nombreux, je crois.
Ouais. Puis, dont le titre a changé en cours de route maintenant, c'est Les Arbres Modestes. Donc ça, c'est une troupe que la MJC a fait venir, qui a été en résidence à la MJC pour la création de ce spectacle-là. Et c'est eux qui ont proposé ce spectacle-là pour notre festival.
Bonjour Madame Desmautiers, donc vous êtes l'ancienne maire de Germaine et vous avez en fait vu le projet à ses tout débuts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait comment vous y avez participé et quelles étaient les intentions de ce projet ?
Alors, le projet est effectivement né à la mairie. L'association est venue après, mais le projet est né à la mairie. Le projet est né quand la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne nous a informé que la boulangerie allait fermer et qu'il n'était certainement pas judicieux de faire appel à un nouveau boulanger parce que l'aire de Chalandise était trop petite. L'idée tout de suite a été, avec la chargée de mission développement économique de la communauté de communes, qu'il fallait rebondir. On ne pouvait pas en rester là. Et on s'est mis un peu à délirer, je crois qu'on peut dire délirer un peu dans la salle de la mairie, de dire tout ce qui serait possible de faire. Et cette dame-là avait déjà vu ailleurs un multiservice. Moi, j'en avais un petit peu vaguement entendu parler sur France Inter ou des choses comme ça. Et on s'est dit, et je lui ai dit, mais c'est tout à fait possible de faire ça chez nous, d'autant plus qu'on a un bâtiment communal qui est loin, un peu loin de la route, et ça pourrait tout à fait se faire. Donc, on est sorti de la mairie, on est allé voir le bâtiment, et elle m'a dit, oui, ce serait vraiment bien, etc. Et quand elle est partie, moi je suis allée voir des membres du conseil municipal, je leur en ai parlé tout de suite, et elles m'ont dit aussi, c'était Isabelle notamment, elle m'a dit « Ah oui, ce serait bien, ah oui, on pourrait faire ça ». Et à partir de là, j'en ai parlé au parc naturel, et le directeur du parc, ça l'a aussi énormément intéressé. Il nous a dit que lui-même, au parc, il n'y avait pas de chargé de développement économique, mais que dans le réseau des parcs, il y avait certainement des gens qui avaient travaillé sur la question. Donc, il nous a trouvé une brochure faite par les parcs des volcans d'Auvergne sur justement les installations de commerce, multiservices, bistrot, animation culturelle en Auvergne. Ça nous a motivés. On a aussi la chargée de mission de la communauté de communes Elle a aussi tout de suite cherché les possibilités d'aide. Et donc, elle a vu que la région Grand Est, donc Champagne-Ardenne à l'époque, non Grand Est, faisait un appel à projet, manifestation d'intérêt, d'un développement économique qui pouvait aller. Et c'est comme ça que les choses se sont mises en place. Donc, il y a eu d'abord, pour moi, vraiment la collectivité qui s'est dit, voilà, il faut vraiment rebondir. Et avec l'aide ensuite de la région, ça s'est structuré très vite. Donc c'était Xavier Rillet qui s'en occupait à ce moment-là. On a mis en place un atelier ouvert à la population, justement pour demander qu'est-ce que la population souhaitait pour rebondir après la fermeture de la boulangerie. Et c'est lors de cet atelier qui était au foyer rural, et si je me souviens bien, il y a au moins 70 personnes du village qui sont venues et qui ont formulé plein d'idées encore pour animer cela. Donc, fondamentalement, il y avait le pain, hein, ce que vraiment les gens voulaient, c'était une boulangerie et du pain. Mais c'était aussi, un café, c'était aussi du théâtre, c'était aussi peut-être un lieu pour avoir des massages, etc., etc.
Il y avait une vraie attente alors derrière.
Voilà, une attente et qui a été exprimée, que les gens ont exprimée, et on ne s'est pas morfondu du tout sur le fait de ne plus avoir de boulangerie. Et alors, je ne sais plus après exactement comment les choses se sont passées. Et moi, je sais, au niveau de la mairie, je me suis dit, il ne faut pas que ce soit la mairie qui s'en occupe. On avait déjà beaucoup de choses à traiter. On s'est dit qu'il valait mieux que ce soit une association qui s'en occupe. Et donc, ça s'est travaillé un petit peu tout seul. Et finalement, on a trouvé que Claude Gamichon, il était très bien pour être président de l'association. Mais vous voyez, voilà, j'arrive pas bien à me souvenir comment précisément les choses se sont passées. Claude était déjà adjoint à la mairie. Et je pense qu'on n'a pas eu à se dire qui veut bien être président de l'association. Ça s'est fait à peu près spontanément, naturellement, et il a fait l'unanimité.
Finalement, c'était déjà un petit peu en incubation. C'était en incubation et il y a juste eu cette idée de ce jour-là qui a mobilisé
peut-être
tout le monde.
Bien, voilà. Disons comment, je pense surtout qu'on voit qu'on est un village qui depuis longtemps considère que nous avons du pouvoir. Beaucoup de choses peuvent se faire si nous les prenons en main. Et j'ai l'impression que la fin de l'entreprise privée de la boulangerie ne nous a pas désespérés. On s'est dit que nous, on pouvait faire. Et je sais, il me semble aussi que quand on a vu que, justement, avec le parc, ailleurs, d'autres avaient fait ce genre de choses, je crois souvent à m'être dit et avoir dit, puisqu'il y en a qui ont réussi à le faire, nous aussi, on va y arriver.
Bonjour Madame Robert et Isabelle.
Bonjour.
Donc vous faites aussi partie de l'organisation du festival et vous plus particulièrement sur le côté boutique. Et donc j'aimerais que vous expliquiez un petit peu comment vous avez fait partie de cette organisation et quel est votre rôle dans ce festival.
Eh bien moi je fais partie des bénévoles qui ont construit donc le projet du Cerf à trois pattes. Je suis vice-présidente de l'association, mais je suis sur le terrain plutôt pour mettre en forme une boutique de produits locaux. Voilà, le but c'était déjà d'avoir un dépôt de pain dans le village. Et bien sûr, on ne peut pas faire fonctionner la boutique uniquement avec un dépôt de pain. Et puis les habitants nous ont quand même bien fait comprendre que les produits locaux, ça pouvait les intéresser. Et donc on est parti sur un développement de tous ces produits, alors que ce soit des produits secs, des pâtes, de la farine, des poulets de chez le fermier, du bœuf, de la brebis, des œufs, du lait, des yaourts. Voilà, et donc moi j'essaie de développer au mieux ces produits pour que tous les habitants du village et de la communauté de communes et même plus loin sur Épernay et Reims puissent avoir accès à tous ces produits. Alors soit en tapant sur un e-commerce sur internet, soit en venant à la boutique. Voilà, et donc tous ces produits sont représentés dans la boutique et dans le e-commerce.
D'accord. Quand vous avez mis en place cette boutique, vous avez dû donc contacter des producteurs locaux.
Ah oui, j'étais en recherche de... je me suis demandé même où était-il.
Oui, alors
parce
comment
que finalement, ça fait 2 ans qu'on travaille sur le sujet. J'ai fait pas mal de marchés. Je me suis déplacée à beaucoup d'endroits, par connaissance, des réseaux. Il y a quelqu'un qui fait des pâtes à Condé. Il y a quelqu'un qui vend des lentillons sur Montepreux. Il y a quelqu'un qui vend des yaourts. Alors on s'est présenté, on a expliqué le projet.
Les gens sont faciles à convaincre?
Très faciles. Enfin, sur le coup, c'est pas évident pour eux parce que c'est des producteurs, c'est des agriculteurs, et ils sont au four et au moulin. Il faut qu'ils mettent en place leur champ, il faut qu'ils récoltent, il faut qu'ils traient les vaches, il faut qu'ils fassent leur yaourt, enfin bref, ils font tout. C'est pas facile de les avoir, mais notre projet les a intrigués. Et on a commencé par des petites quantités. Aujourd'hui, eh bien, ils viennent pour certains toutes les semaines nous livrer au cerf à trois pattes, parce que les gens du coin, ils sont habitués à manger le fromage blanc, les yaourts. Et donc maintenant, on est un petit peu addicts.
D'accord.
Voilà.
Et alors, par rapport au projet du festival, ça vous a demandé un travail un peu
supplémentaire. Voilà. Oui, parce que en fin de compte, le cerf à trois pattes, c'est trois pattes. C'est trois pattes qui fonctionnent, parce que s'il n'y en a qu'une qui fonctionne, il tombe. Donc les trois pattes, c'est justement cette boutique de produits locaux. C'est un bistrot de pays qui va accueillir la culture, parce qu'il y a des salles aussi pour la culture. Donc, il y a aussi le volet tourisme avec les randonnées qui vont être aussi développées. Et donc, ces trois pattes-là, elles fonctionnent ensemble. Les bénévoles, ils passent de l'une à l'autre. Oui. Mais quand on fait venir du monde pour une exposition, pour un festival du livre, eh bien, ça va faire fonctionner la patte du bistrot et puis ça va faire fonctionner aussi la patte du commerce produits locaux. Donc, on est tous un peu liés les uns aux autres. Alors, chacun va se mettre dans un groupe de travail par affinité, en fin de compte, mais on va travailler dans des réunions ensemble pour développer ces trois pattes.
C'est un moyen de faire connaître la boutique, j'imagine.
Tout à fait.
Le festival, vous avez des retours un peu des
Oui, parce que là, aujourd'hui, les gens qui viennent au Festival du Livre parce qu'ils ont envie de voir une exposition ou assister à un spectacle n'avaient pas du tout connaissance de cette boutique et ils sont passés devant, ils ont dit « Ah, il y a ça, c'est génial !» Ah oui, il y a quand même tous ces produits-là autour de chez nous. C'est génial et ce n'est pas forcément des gens du village.
Alors, je voudrais savoir aussi, par rapport à votre engagement personnel, comment vous êtes entrée là-dedans? Comment vous êtes tombée dans la marmite?
En fin de compte,
je remonte aux origines.
J'ai arrêté de travailler pour élever mes enfants. Je travaillais justement dans le commerce. Et j'ai fait pause. J'ai fait pause, mais entre guillemets, j'étais quand même dans toutes les associations qui se développaient sur Germaine. Et puis au niveau de la mairie, puisque je suis adjointe à la mairie. Et c'est venu, en fin de compte, ça vient tout doucement, ça germe tout doucement. Et puis c'est le lien social qu'il y a dans le village et que nous continuons à développer et à conserver. Puisque automatiquement, quand on a des endroits de rencontre comme ça, eh bien, on rencontre des gens et des gens qui ont plein de compétences. Et c'est la force vive du village. Toutes ces compétences, elles sont mises à disposition pour des projets. Et il y a toujours quelqu'un qui va pousser quelqu'un à moi je m'y connais un peu en compta, moi je m'y connais un peu en commerce, moi je m'y connais un peu en électricité. Et puis toutes ces compétences, elles sont au service du cerf à trois pattes. Et c'est quand même au service des gens et au service des producteurs et des agriculteurs qu'il y a derrière tous ces produits. Parce que le produit local, il est vendu dans la boutique, mais il est vendu aussi dans la bistrot. Parce que dans le bistrot, vous n'allez goûter que des produits locaux. Les bières d'Ailly, les bières de Toxières, les bières de Lude, les bières de Cormontreuil. Vous allez manger le fromage sur les planches qui sont des fromages de la production locale. Et voilà, c'est un cercle vertueux en fin de compte.
Donc bonjour Florent Bresson, vous faites aussi partie des organisateurs du festival et vous allez nous expliquer un petit peu quel rôle vous tenez dans l'organisation.
Donc moi je suis un peu en fait à l'initiative du festival, donc je suis membre du CR à trois pattes et on cherchait de nouvelles idées pour développer la partie culturelle du CR à trois pattes, donc toute la partie... en gros, organiser des événements pour faire vivre le cerf à trois pattes, qui n'est pas qu'une épicerie, mais aussi un lieu destiné à promouvoir la culture à Germaine. Et donc, j'ai amené l'idée du festival du livre, mais dédié à l'arbre. Dédié à l'arbre parce que Germaine, c'est un village au milieu de la forêt. Puis bon, c'est un petit peu... On vit tous avec la forêt, en fait. C'est un ancien village de bûcherons. Et encore maintenant, on est amené à faire des promenades. On va aux champignons. Il y a les chasseurs. Il y a les... Bon,
C'est un incontournable, on peut dire.
C'est un incontournable de Germaine. Voilà.
Donc ça ne pouvait être que l'acteur du festival, l'acteur principal.
C'est ça. Et en plus, bon, je suis un amoureux des livres, donc j'en ai écrit plusieurs. J'ai écrit un livre. Je suis enseignant dans l'école d'Avenay-Val-d'Or, l'école du village voisin. Et donc j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Un arbre pour la récré ». Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui n'aime pas trop l'école. Il aime bien l'école, mais en fait il aime surtout la récré. Il aime surtout la récré. Et puis à chaque fois il lui arrive plein d'aventures. Et au final, à chaque récré, il va se consoler auprès d'un arbre. Voilà. Donc moi, mon rôle dans le festival, c'était plutôt de choisir les auteurs, les illustrateurs, et puis je me suis aussi occupé de tout le volet
librairie
et école aussi.
Et école, d'accord. Parce que
le festival a commencé le vendredi, le vendredi où il y a 5 auteurs illustrateurs qui sont intervenus dans les écoles. Donc il y a par exemple Émilie Vaste et l'illustratrice Cécile qui sont intervenues à l'école d'Avenay-Val-d'Or. Elles sont intervenues également à l'école de Val-de-Livre. Il y a Anna Griot et Elsa Mroziewicz qui sont intervenues à l'école de Germaine. Voilà. Donc,
comment s'est fait le choix des artistes? Il y avait un souci donc d'équilibre local, régional.
On a déjà essayé effectivement de choisir des auteurs, on va dire, du Grand Est. Du Grand Est. On a la chance en Champagne-Ardenne d'avoir des auteurs connus comme Émilie Vaz, comme Cécile. Ensuite, on a été conseillé aussi par l'association Interbibli, qui s'occupe, qui ont pour vocation de développer justement des festivals de lecture, qui nous ont conseillé des illustratrices comme Anna Griot et Elsa Mroziewicz, qui viennent de Strasbourg. Et puis après, c'est beaucoup de bouche à oreille. Voilà. On a choisi aussi des auteurs qui ont écrit sur l'arbre.
D'accord.
Voilà.
Ouais.
Donc, Émilie Vaste, elle avait fait un livre sur les arbres. Cécile, pareil. Elsa, Anna Griot. Toutes ces illustratrices ont fait au moins un album ou un livre qui parle des arbres.
D'accord. Et donc, vous avez trouvé ça compliqué de réunir toutes ces personnes lors du festival?
C'est pas simple, quoi. Et d'autant plus qu'on a eu de nombreux auteurs qui se sont désistés. À chaque fois, il fallait les remplacer, trouver quelqu'un d'autre.
C'était une première expérience.
Et puis en plus, dès le départ, on a voulu viser assez haut. Mm-hmm. On s'est dit, pour que notre festival il marche les années suivantes, si il y a des éditions suivantes,
Il faut qu'ils soient ambitieux.
Il faut qu'ils soient ambitieux.
D'accord. Et donc, les rencontres avec les enfants, c'est important pour vous? Qu'est-ce que ça a comme but?
Il y a toute la dimension pédagogique. Mm. Et puis aussi, par rapport... les intéresser aux livres, mais aussi à l'environnement. Donc là, on a les deux volets. Donc aussi bien la lecture que l'environnement, les sensibiliser à l'arbre.
Le fait que la librairie Apostrophe vous ait suivi, ça aussi, c'est plutôt quelque chose qui a été facile à établir, cette collaboration.
En fait, ça a été naturel. Naturellement, on s'est dit, choisir la librairie L'Apostrophe qui est à Épernay, c'est la ville la plus proche de Germaine. Et puis en plus, une belle librairie. Donc, ils nous ont suivis sans problème. Voilà. Donc le partenariat avec L'Apostrophe s'est fait tout naturellement. Et puis ils nous ont fait confiance aussi, puisque c'est nous qui assurons aujourd'hui, le dimanche, la vente des livres.
Maintenant que nous avons examiné les racines et le tronc, nous allons grimper sur les branches en compagnie de ceux qui animent le festival. Auteurs, illustrateurs, artistes plasticiens, animateurs d'ateliers, libraires, conférenciers,
chacun contribue à sa manière à l'énergie dégagée par le festival et au plaisir ressenti par tous.
Bonjour, vous êtes auteur et photographe, vous êtes Yves Flattard.
Oui, bonjour.
Et vous avez réalisé un arbre, livre qui parle des faux de Verzy.
Oui.
On voit bien le lien avec l'arbre, mais vous pouvez peut-être nous expliquer votre rencontre avec cet arbre.
Alors, moi, je n'ai pas la région, mais j'ai ma belle famille qui est d'ici. Et un jour, je suis allé... Mon beau-père m'a parlé tout le temps des faux de Verzy. Au bout de 3-4 ans, je lui ai dit quand même, il faut y aller. Je n'avais pas de voiture à l'époque, donc ils habitaient à Reims, donc c'était difficile d'y aller tout seul. Et on est allé un jour en hiver, en été par contre, et là j'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai gardé ça dans un coin de ma tête et j'y suis retourné en hiver. Et là effectivement quand il n'y a pas les feuilles, on voit très bien la structure des arbres. Et là tout de suite je suis tombé en pamoison devant ces arbres, et comme je suis photographe, je suis revenu, et au début j'ai fait travailler seulement en noir et blanc. Et très très vite, pour les sortir de leur contexte, parce que quand je faisais les photos des arbres, il y avait toujours les autres qui étaient derrière, qui me gênaient un peu. J'en suis arrivé à les photographier de nuit, en créant mes propres lumières. Et j'ai fait une exposition d'ailleurs à l'époque dans Reims. Et après, j'ai voulu en faire un livre. J'ai eu des problèmes avec des éditeurs pour faire un premier livre avec que du noir et blanc. Et finalement, je suis arrivé à faire des photos couleur pour la presse. Et la presse a plutôt pris les noirs et blancs. Voilà, c'est passé dans Géo et dans Géo France, Géo Russe et en noir et blanc. J'ai quelques autres magazines qui ont pris en couleur. Et puis comme ça s'est accumulé, les photos, je me suis dit, je vais tenter de faire un livre maintenant en associant la couleur et le noir et blanc. Et il y en a eu un premier livre avec un éditeur en 2000. Ça s'est très mal passé avec l'éditeur. Et quand le livre, en 2014, quand l'autre livre était, je savais qu'il était épuisé, j'ai relancé une campagne de photos. Et j'ai fait une campagne de financement participatif. Et là, j'ai pu sortir le deuxième bouquin qui est actuellement dans les librairies de la région.
Alors quand on photographie toujours le même arbre, est-ce qu'on le voit différemment après ?
C'est pas toujours le même.
C'est pas toujours le même.
Non.
Par rapport aux saisons ou par rapport à la forme de l'arbre ?
Il y a les deux. Les deux sont intéressants. Alors, ce qui est intéressant sur les faux de Verzy, c'est qu'il y en a à peu près 800 qui sont assez concentrés dans une. Bon, ils ont créé maintenant une réserve qui fait 30 hectares, mais il y en a d'autres à l'extérieur qui sont parfaitement visibles. Et ils sont tous différents, ils ont tous leur personnalité. Donc, c'est intéressant de traverser la forêt en long, en large et en travers pour trouver des arbres différents avec des expressions différentes. Et la saison, il joue beaucoup, effectivement, parce qu'en automne, on a les couleurs rouges. Le moins intéressant pour moi, je pense, c'est l'été, parce que toutes les feuilles forment comme un parasol autour des branches et on ne voit plus du tout la structure des arbres. Donc on voit des parasols ou des igloos, mais on ne voit pas les faux de Verzy. On ne voit pas la spécificité de ces arbres. Donc, à l'automne, quand ils commencent à perdre les feuilles, en hiver, ça devient beaucoup plus intéressant, effectivement.
Et vous trouvez qu'ils ont, ils dégagent une atmosphère particulière, ces arbres, une magie peut-être,
ou oui,
à force de les fréquenter.
Mais même sans ça soit à force, je pense que c'est un choc. Quand on voit, il y en a certains, moi j'en ai deux ou trois préférés qui sont les plus tordus. C'est un choc visuel et on se pose forcément des questions, d'autant plus que même les scientifiques ne savent pas pourquoi ils sont comme ça. Et peut-être que moi je suis tordu profondément, mais je me suis attaché profondément à ces arbres. Complètement, oui. J'ai mes préférés et quand j'y vais, j'y retourne toujours en voir un ou deux. Je leur parle un petit peu.
Ils bougent, ils changent.
Alors, c'est des arbres qui évoluent très très lentement. Donc j'ai vu en 30 ans, 35 ans même, des tout petits grandir un peu. Les grands, on ne les voit pas bouger parce qu'ils avancent beaucoup plus lentement. Mais des petits, oui. Par contre, j'ai vu des vieux mourir, disparaître.
Ah oui.
Des très vieux, qui étaient très gros. Et à la fin du livre, je parle d'un en particulier qui s'appelait la tête de bœuf. Et je l'avais photographié plusieurs fois et je voyais sa déchéance. Il retournait à la terre. C'est pas vraiment une déchéance parce qu'il va servir à autre chose. Il va faire de l'humus. Mais j'ai ma belle-mère qui m'a sorti une photo que je connaissais pas. Et c'est à la fin du livre. C'est assez touchant pour moi parce que un jour, mon épouse était venue avec notre premier fils. Elle lui avait donné le biberon appuyé à un arbre. Et la photo que ma belle-mère m'a donnée, longtemps après, C'était sa belle famille à elle qui avait été photographiée devant le même arbre avec quasiment le même angle de vue. Donc voilà, quand on se dit, si on croit aux transmissions de pensée, à des choses qui peuvent traverser les générations, moi ça m'a troublé, quoi. Déjà, ces arbres m'attachaient, j'étais beaucoup attaché à eux, mais en plus, là, il y a eu quelque chose de spécial, quoi.
Qui est aussi de l'ordre de la mémoire de leur population,
ouais.
Que vous avez fixé au travers de...
Bien sûr, oui, parce que...
Même si le temps des arbres n'est pas le même que celui des hommes, mais...
C'est exactement ce que j'ai écrit à la fin du livre. Oui. C'est marrant parce que vous ne l'avez pas vu, mais bon, c'est exactement ça. Je parle de génération et de régénération, et je dis exactement que le temps des arbres n'est pas le même que celui des hommes. Et voilà, eux, ils durent plus longtemps que nous. Du moins, les êtres tortillards, les plus vieux, semble-t-il, auraient 400 ans. Donc voilà, c'est tout dire déjà. Ils voient du monde passer, ils gardent peut-être une mémoire, je ne sais pas. On apprend beaucoup de choses sur la nature actuellement et sur les animaux. Qu'est-ce qu'on va découvrir plus tard, je ne sais pas.
Bonjour.
Alors, je vais vous laisser vous présenter. Vous êtes illustratrice.
Oui, voilà. Donc, je m'appelle Elsa Mrozievic. Je suis illustratrice. J'habite pas très loin de Strasbourg, dans un petit village à Ernolsheim-Bruch.
D'accord.
Et voilà. Donc, moi, je travaille l'illustration depuis 2014 et je fais aussi des films d'animation, enfin, tout ce qui a un rapport avec le papier. Et effectivement, le thème de l'arbre, c'est un thème qui s'est imposé là depuis à peu près 2 ans. Et donc aujourd'hui, je présente 2 livres, dont un qui s'appelle Pages d'arbres. Donc c'est des poèmes autour des différents arbres du monde et des arbres qui, comment dire, qui me portent ou qui me parlent. Donc on est plusieurs. Hein. Il y a Cécile Palusinski, auteur, qui a fait les poèmes. Saba Niknam, qui réalise des illustrations avec moi. Et donc on va parler des dragonniers, des banyans, baobabs, bouleaux, cyprès. Donc vraiment plein d'arbres qui... Voilà, qui nous parle, ou qu'on avait vraiment envie de dessiner ou de rencontrer. Et puis, on a découvert des mythologies liées à ces différents arbres. Et donc, c'est vrai que ces poèmes vont se colorer des mythologies des différents pays, des différents lieux.
Comment vous avez réussi à faire ressortir ça dans vos illustrations, justement, parce que vous n'avez pas le côté verbal, vous avez le côté dessin.
Alors, cette fois-ci, on ne l'a pas forcément vraiment fait dans les illustrations. On est resté plus sur la vision archétypale de l'arbre, par exemple, si c'est... Le baobab, mon ami, voilà. L'idée du baobab, c'est plus dans le poème qu'on va ressentir cet aspect mythologique. Et après, le livre est connecté à une carte numérique. Donc c'est un site web. En fait, on a la carte du monde et on a plein d'arbres. Et on peut cliquer du coup sur des petites feuilles qui sont sur les différents pays, ce qui nous permet de découvrir des podcasts littéraires et lus par des comédiens. Et il y a une musique qui est composée. Donc tout ça, en fait, ça va enrichir l'écoute et la découverte de chacun pour mieux rentrer dans son univers. Ouais.
Et vous, donc au niveau de l'illustration, est-ce que vous avez trouvé complexe de dessiner ces différents arbres, les différents styles justement
Oui, parce que c'est vrai que chaque arbre a une manière de pousser, d'être tortueux ou pas, d'avoir des branches très fines ou pas. Donc il y a vraiment l'idée qu'on se fait des arbres quand on va le dessiner rapidement et puis la réalité des faits avec toutes ces branches qui vont s'entrelacer ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup renseignée sur plein... Enfin, déjà... Ouais, moi je vais travailler beaucoup à partir de plein de photographies, plein de banques d'images. Des photographies qu'on a pu réaliser aussi, hein, mais c'est vraiment un éventail. Et après, l'idée, c'est vraiment de s'approprier un peu l'arbre. Et ça, bien sûr, ça sera toujours un peu,
différent. C'est plutôt réaliste, ou
alors, dans ce livre-là, il y a une tendance réaliste. Mm-hmm. Ouais. Donc, c'est vraiment au trait, c'est très fin, en noir et blanc. Un côté un peu gravure. Donc, c'est vraiment les jeux des ombres et des lumières de ces arbres. Donc, c'est plus réaliste.
Bonjour, vous êtes autrice, vous êtes Émilie Vast, et donc vous êtes autrice et illustratrice.
Oui.
Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre lien avec le thème de ce festival, donc les arbres ?
Ben, très simplement, en fait, je suis une amoureuse de la nature, et il y a beaucoup de mes livres qui traitent des plantes, des animaux, et notamment des arbres. En fait, j'en ai 3, il y en a un qui s'appelle Quelque chose de merveilleux, et c'est un arbre au fil des saisons. Avec les variations des feuilles, des changements de couleur, etc. Il y en a un autre qui s'appelle Jusqu'en haut.
Et celui-ci, c'est, on se retrouve en forêt amazonienne, dans un arbre où les animaux montent jusqu'à la canopée pour découvrir le pourquoi du comment de ce qui leur arrive depuis quelques temps. Et puis, j'ai fait tout un tas d'autres livres qui vont être sur le thème, par exemple, de plantes vagabondes. Donc, on va retrouver l'arbre avec sa façon de se reproduire, les glands qui tombent, l'érable avec les graines qui volent. Enfin, et puis, je vais avoir aussi carrément des herbiers, des arbres avec la collecte des feuilles qu'on connaît chez les enfants. Enfin, toutes ces choses. Donc, oui, j'étais tout à fait désignée pour ce thème.
Voilà, on peut dire que vous êtes inspirée par l'arbre. En fait, quelle image de l'arbre, ou quelle silhouette, ou peut-être quelle idée vous appelle dans cet élément végétal?
En fait, j'ai jamais vraiment réfléchi. C'est la nature de manière générale, et l'arbre en fait partie. Donc, il y a des moments, l'arbre peut être carrément un lieu, puisque c'est un espace de vie pour les animaux. J'ai un livre encore qui s'appelle Il était un arbre. On voit vraiment les animaux, toujours au fil des saisons, vivre et voir ce qui se passe. Par rapport à l'hibernation, par rapport à faire son nid, ou des choses comme ça. Il y a des petits titres à chaque page. Donc pour moi, c'est vraiment un espace de vie.
Mm-hmm. Et au niveau de l'illustration?
Un décor.
Voilà, c'est un décor. Et au niveau de l'illustration, en quoi les formes de l'arbre peuvent vous inspirer, en fait? Qu'est-ce qu'elles vous permettent de faire?
Alors, j'ai pas trop réfléchi à ça, mais c'est plus... j'avoue qu'on le fait pas toujours par plaisir, là, parce que c'est un peu la forme la plus compliquée qui soit. C'est quelque chose qu'on pense pas forcément. Moi, je le laisse se créer sous mes doigts sans forcément le visualiser très clairement avant. Donc, c'est même à la fin, on se dit, ah oui, d'accord, finalement, il ressemble à ça. Je lui ai mis une branche ici, une branche là. Et c'est un motif complexe, mais que notre... comme une file de pensée qu'on laisse cheminer. Quoi.
D'accord. Vous aimez vous inspirer de la réalité ou pas forcément, justement?
Alors, non, pas forcément. C'est une idée idéalisée, en fait, de l'arbre. Mm-hmm. Et ça peut m'arriver de prendre exemple sur un arbre particulier, mais ce ne sera jamais exactement pareil. À la fois...
pas votre objectif de reproduire?
Non, pas exactement. Après, ce sont beaucoup de livres où il y a de la pédagogie dedans. Je fais en sorte de ne pas me tromper, d'être au plus proche, mais je ne vais pas aller observer un arbre précis dans la nature pour le reproduire. C'est vraiment un arbre qui pousse dans ma tête. Quoi.
Et sur le plan des couleurs, c'est pareil aussi? Est-ce qu'il y a des couleurs spécifiques que vous raccrochez à l'arbre ou pas forcément?
Alors, pareil, pour le coup, je suis dans les couleurs, je ne suis pas réaliste, puisque moi, j'utilise pour les branches et le feuillage le noir. J'ai fait ce choix il y a déjà longtemps, comme une sorte de code couleur. J'étais graphiste avant, et les lettres dans un roman, dans le journal, elles sont bien en noir pour qu'on les lise bien. Et moi, j'avais envie qu'on lise mes silhouettes, qu'on lise mes feuilles, qu'on les comprenne juste par leur forme et pas par leur couleur. On sait qu'en gros, ça va être les troncs sont gris, les feuilles sont vertes, mais ça, je m'en fiche. Parce qu'en faisant comme ça, dès qu'on va mettre l'élément fleur, fruit ou un animal qui s'y promène, tout de suite, il va ressortir. Du coup, là, ça devient encore plus un décor et on voit les personnages vivre dans cette scène.
François Schmitt.
Salut, salut.
Voilà. Trop chaud. Illustrateur, dessinateur, plein de choses.
Ouais. Dessinateur, c'est très bien. C'est, ouais, bien, ouais. Voilà. C'est même mieux qu'illustrateur, c'est parce mieux que illustrateur, j'ai pas toujours quelque chose à illustrer. J'invente beaucoup, donc j'illustre pas forcément. Non, alors le lien entre mes dessins et l'arbre, je le trouve tellement évident que c'est difficile à le définir. D'abord, j'ai énormément dessiné d'arbres, de maisons dans les arbres, d'arbres dans tous ces états. L'arbre est quelque chose d'important dans ma vie, mais pas... j'ai même pas une réflexion autour de ça. C'est une importance naturelle. Les arbres sont là parce que je les côtoie, moins que je voudrais, mais je les côtoie, parce que je vais aux champignons, parce que je me balade en forêt le plus possible, mais pas assez à mon goût. Et parce que la présence de l'arbre me rassure et je trouve l'arbre un objet d'art extraordinaire. Je trouve que l'arbre est un dessin, au sens graphique, absolument magique, merveilleux et sans cesse renouvelé. Je me souviens j'ai fait des grands voyages, j'ai eu la chance de faire des grands voyages. Je me souviens au Chili d'aller voir les araucarias qui sont... pandémique du Chili et qui deviennent tout secs. Et on a des espèces de zones d'arbres squelettiques qui sont absolument magnifiques à dessiner, qui sont des lieux formidables parce que c'est de la forêt presque primaire là-bas. Et donc, ils retombent sur eux-mêmes, ils font des mousses, puis ils repartent. C'est absolument extraordinaire. Je me souviens de Sequoia en particulier, pas cet endroit-là, qui sont extraordinaires. J'ai dessiné cet été un arbre que j'avais à ma fenêtre, c'était en Grèce, là. Et c'était absolument étonnant de voir comment l'arbre s'était accroché à la falaise. Et j'ai dessiné ça parce que je l'avais devant les yeux, mais parce que je me disais que c'était vraiment un personnage vivant. Il était sur sa falaise comme un visiteur. Et pour moi, c'était vraiment magique. Donc, ouais, l'arbre est vraiment, fait partie vraiment de mon univers dessiné. Et
il y a des arbres aussi qui ont servi de cabane, enfin de lieu
ouais,
de
alors, aussi. Dans ouais, le, bien dans sûr, oui, j'ai travail. Fait beaucoup de maisons dans les arbres, de cabanes dans les arbres, de jardins perchés. Mais alors là, le mystère est un peu plus compliqué parce que je ne sais pas pourquoi. J'ai réfléchi, je n'ai pas d'explication sur le fait que j'ai dessiné des maisons dans les arbres. Ça fait très longtemps, hein, je dessine des maisons dans les arbres depuis très très longtemps, bien avant la mode. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais construit de maison, de cabane dans les bois, de maison dans les arbres. J'en ai jamais vu beaucoup. Mais je pense que ce n'est pas surprenant de travailler dans ce domaine-là parce que c'est vraiment une sorte de rêve naturel, quoi, hein, une sorte de sentiment très, très partagé où on est... la maison dans les arbres, bah, c'est l'idée de l'évasion. Puis... En point de vue de la littérature, mais on en a déjà parlé, c'est des œuvres magistrales comme Le Baron Perché, par exemple. C'est évident que l'histoire de ce baron, le petit garçon Côme, là, qui monte dans les arbres et puis qui ne jamais redescendra de son arbre pour éviter la colère de son père, et qui va vivre dans les arbres et qui va rencontrer des peuples vivant dans les arbres, c'est une histoire magique qui fait complètement rêver.
Il y a plusieurs mondes.
Ouais, c'est ouais. Bon.
Tout à l'heure, vous avez animé une masterclass de dessin.
Je me suis bien amusé.
Voilà, vous
c'était
êtes bien
très
amusé.
Agréable.
On a entendu aussi que ouais. Voilà, toutes les personnes étaient très concentrées et très passionnées par ce qu'elles faisaient.
Réellement.
En quoi ça peut être intéressant de travailler sur l'arbre dans ce genre d'animation?
Bah, c'est pas travailler sur l'arbre qui est intéressant. L'arbre, c'est un thème. Cézanne disait on peut tout dessiner si on sait dessiner une pomme. Donc. Alors lui, il dessinait pas peignier, mais il a dit ça. Et je crois assez à cette. Il fallait trouver un thème, et le thème est tellement riche que c'est très bien de dessiner les arbres, mais ça aurait pu être n'importe quoi, je pense. Et on était aujourd'hui ici à la fête de l'arbre, et évidemment que l'arbre tombait sous le sens. Mais c'était pas ça le plus important. Le plus important, c'était de trouver des techniques dans le dessin de l'arbre qui puissent servir à toutes sortes d'autres dessins, quoi. C'était vraiment une masterclass très technique et très, très orientée sur la lumière, par exemple, ou sur les matières, les formes et les matières. Et l'arbre était vraiment un très, très beau prétexte pour ça, quoi.
Bonjour Gladys Bourdon, donc, vous êtes artiste plasticienne et donc vous êtes présente aussi au festival Lire Perché dans l'arbre. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez créé dans le cadre de ce festival et en rapport avec l'arbre?
Alors pour le festival, j'ai réalisé 3 dessins en pierre noire et une vidéo. Et la vidéo, elle dure à peu près 4 minutes. Et l'ensemble des supports que je présente des arbres un peu dénudés qui sont avec leurs racines. On les voit dans leur entièreté, nues en tout cas. Alors je ne sais pas si vous connaissez la proprioception. La proprioception, en fait, c'est un sens que nous, êtres humains, on aurait, qui nous permet de... Alors quand on se déplace, en fait, ça nous permet de prendre conscience dans l'environnement dans lequel on se trouve. Et c'est grâce à ça qu'on peut se mouvoir et qu'on peut faire tous les mouvements qu'on fait de manière un peu inconsciente tous les jours. Les personnes qui sont... dépourvus de proprioception, ne peuvent plus marcher, ne peuvent plus rien faire dans leur vie, ils n'ont plus conscience de leur corps. Et c'est vraiment un sens qui est très, très important. Mmh. Et il semblerait que les plantes, ça c'est en tout cas un questionnement que les scientifiques, ils se penchent particulièrement dessus. Il se pourrait que les arbres aussi aient ce sens de proprioception. Mmh. Alors il faut savoir que les plantes, elles sont à la fois guidées par la lumière, la gravité, mais en fait pas tant que ça. Mmh. On le croit souvent. Mais par exemple, les scientifiques font des tests, ils mettent des plantes dans des environnements où la lumière est partout, donc que ce soit sur le sol, sur les murs, sur le plafond. Et en fait, la plante, si on va la pencher, elle va se redresser parce qu'en fait, c'est ça. Nous, on est debout, les plantes, elles doivent être de manière rectiligne, elles doivent pousser du sol vers le ciel. Mm-hmm. Et donc, les scientifiques font aussi des tests qui sont assez bluffants, je trouve. Ils font perdre aux plantes ce sens de... Enfin, en tout cas, ils suppriment la gravité, en quelque sorte. Mm-hmm. Ils vont faire tourner les plantes sur elles-mêmes. Et en fait, ils se rendent compte que, bon, au départ, les plantes, elles tombent. Mm-hmm. Mais au fur et à mesure, elles vont se redresser. Mm-hmm. Et en fait, c'est là qu'on voit qu'elles n'ont pas besoin de gravité pour pousser de manière rectiligne. Mm-hmm. Et c'est ça qui, en tout cas, moi, me touchait dans ce projet-là, que je souhaitais montrer. Montrer l'arbre à nu dans l'espace et créer, grâce à cette vidéo aussi, une multitude, une infinité de tableaux. Mm-hmm. Puisqu'en fait, c'est en quelque sorte un arbre. Soit on le découvre, soit il vient à nous. C'est à nous de choisir l'histoire qu'on souhaite donner à la vidéo. Mm-hmm. Mais grâce à cette vidéo, on peut apercevoir l'arbre dans son entièreté. Mm-hmm. Et parfois même à se demander, est-ce que c'est bien un arbre?
Mm-hmm. Tout à fait, parce qu'on ne voit plus tellement le bas, le haut. Exactement. On ne distingue plus les racines et les branches. Et on a le sentiment que tout est un peu semblable. Voilà. Comme un miroir, mais c'est qu'on ne voit pas habituellement entre ce qui se passe sous terre.
Exactement.
Et ce qui se passe dans les airs.
Voilà.
C'est une façon de finalement enlever les enveloppes qui entourent ces espaces-là les découvrir d'une autre façon.
Exactement. Mm-hmm. Et ça, c'est tout à fait quelque chose qui m'intéresse dans mon travail, c'est de permettre de voir les choses qu'on voit au quotidien et de les voir d'une autre manière, sous un autre angle, sous une autre perception. Mm-hmm. Et sous une multitude de points de vue. Mmh. Après, chacun peut développer, soit via son imaginaire ou des dessins, s'il a envie de...
À partir de ce que vous avez dégagé.
Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, c'est vrai que dans mon travail, il y a beaucoup cette idée de processus que je propose et qui n'est pas imposé. Et après, les personnes peuvent...
Qui peuvent être le point de départ d'un autre travail artistique,
c'est ça.
Peut-être.
C'est ça, pourquoi pas.
Ou d'imagination, en tout cas.
Voilà.
Et donc, ce sens qu'elles ont en commun avec nous, ces plantes, est-ce que ce serait une forme de conscience de soi-même ? Est-ce qu'on pourrait l'assimiler à ça ou pas ?
Je pense que... Alors, c'est pas forcément quelque chose auquel j'ai pu penser pendant mon travail, mais effectivement, la relation... Enfin, faire cette translation entre le rapport... par rapport au sens de la proprioception entre l'homme et la plante, je trouve vraiment intéressant parce que la plante, finalement, on la sous-estime très souvent, puisque finalement, elle a des capacités assez inédites. Les plantes peuvent communiquer entre elles. Et c'est aussi... Il y a tout un échange aussi avec tout ce qui va être les champignons qu'on va retrouver au sol. Mm-hmm. Les feuilles aussi jouent un rôle très, très important. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier tout ça. Mm-hmm. Chez nous, ça nous paraît inné, on veut le voir que chez nous, et on oublie que les plantes qui paraissent d'ailleurs silencieuses, parce que...
Et inertes,
mais qui ne le sont pas du tout, parce que les plantes... alors, je ne suis pas scientifique, mais il semblerait que les plantes émettent des sons. Mmh. Quand on va leur couper une branche...
Une vibration.
Voilà, il semblerait que les plantes se mettent à crier. Mmh. Et je trouve assez bien de redécouvrir le, la plante.
Sous cette forme de communication, voilà. De mouvement, d'autoconscience de soi.
Ouais.
Enfin, on exagère, peut-être que c'est anthropomorphique, hein, mais en tout cas, ça donne un drôle de sentiment de proximité avec l'arbre.
Après ces rencontres avec les auteurs et les illustrateurs et artistes, on va faire un petit tour dans les branches hautes en compagnie des bénévoles et du public.
Bonjour Christine.
Bonjour.
Alors vous êtes bénévole pour le festival. Vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait ce week-end?
Alors, bénévole pour le cerf à trois pattes en général. Mais moi je me suis plutôt occupée de l'aspect... un peu restauration extérieure, donc préparation de... On a fait de la tambouille avant de venir, voilà. On a déménagé pas mal de choses aussi, pas mal de transports, l'installation. Et puis bon, après, pendant les deux jours, j'étais plus sur le stand de billetterie, à côté de la restauration aussi. Donc pour les spectacles, les inscriptions aux spectacles, aux expositions.
Voilà, vous faites ça pour quel réseau?
Ah, moi, parce que ça fait... Pour faire vivre le village, pour les habitants, il y a besoin de cette dynamique, quoi, pour rencontrer les gens, pour leur faire découvrir tout un tas de choses.
Et vous, à titre personnel, ça vous apporte des choses?
Ah bah oui, des rencontres, et puis j'apprends des choses, de toute façon, oui. Et puis beaucoup, le contact, les gens, le plaisir de voir les gens venir, et puis le résultat, bon, c'est vrai qu'on se donne, du temps et de l'énergie, et ça fait plaisir que les gens, ça les intéresse, et ils sont là, quoi.
Le thème de l'arbre, ça vous parle aussi? Ah oui, vous
oui. Oui. Mais l'arbre, avant d'être ici, on était à Paris. Donc on s'est échappé de Paris et on s'est retrouvé dans la verdure. Et on ne fera pas le chemin inverse, ça c'est certain. Oui.
Donc là, vous êtes bien sûr.
Ah, dans notre élément, tout à fait. Perché dans l'arbre, il n'y a aucun problème, oui.
Bonjour.
Bonjour.
Alors voilà, vous faites partie du public du festival Lire Perché dans les arbres. Je voulais savoir, est-ce que vous étiez là hier ou est-ce que vous êtes venu qu'aujourd'hui?
Non, qu'aujourd'hui.
Qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce festival?
On est allé écouter un conteur.
D'accord.
Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu un aussi beau conteur.
D'accord, sur le thème des arbres, j'imagine.
Non, en plus, même pas. Enfin, il y en avait un, il y avait un pommier, voilà. Avec des belles pommes appétissantes dedans, mais c'était pas forcément le thème central.
D'accord. Comment vous avez entendu parler du festival?
Un peu les publicités dans le coin d'Épernay.
Vous habitez pas à Germaine?
Mareuil-sur-Aille.
Mareuil, ça fait pas très très loin.
Ouais.
Voilà. Et donc vous êtes venu pour quelles activités plus particulièrement?
A priori, c'était un petit peu aussi pour faire découvrir aux enfants et puis les dédicaces d'auteurs. On sait que les albums de jeunesse, j'aime bien en avoir pour les loulous. Donc on est assez fans de Zemanel. Donc,
de rencontrer des auteurs, oui. Des illustrateurs.
Et des nouveaux aussi, voilà. Qu'on connaît pas forcément.
D'accord. Tu t'appelles comment?
Noémie.
Noémie. Alors Noémie, tu as passé ta journée, enfin dans ton après-midi ici. Qu'est-ce que tu as fait exactement?
On est allé prendre des livres. On a fait un petit peu. Après on est allé se dépêcher pour aller voir le spectacle.
Alors, qu'est-ce que tu as pensé du spectacle? Ça t'a trouvé ça intéressant?
Oui.
Ouais. Ça parlait de quoi?
Ça parlait d'un monsieur, je ne sais plus trop comment il s'appelle, mais d'un monsieur qui avait un pommier et que tous les matins, il entendait des enfants partir. Et puis, il y a un monsieur qui a dit, il y a un passage là et du coup, il y a une sorcière aussi qui est venue et qui a jeté un sort sur le pommier.
Ça t'a plu comme histoire?
Oui.
Oui.
Et pour plus que les enfants y redescendent.
Alors je sais qu'on n'est pas encore à l'heure des bilans, le bilan il viendra bien plus tard, mais là après quelques jours de festival et de mise en place de tout ça, vous en pensez quoi? Vous ressentez ça comment ces journées?
On est quand même satisfait des retours, voilà, quand même, sans être immodeste, mais bon, on est satisfait des retours. Hier, il y avait une très très bonne fréquentation des différents ateliers, des spectacles, des conférences. Bon, aujourd'hui, on verra bien, donc on pourra vraiment savoir que ce soir exactement comment ça s'est passé. La mise en place a été assez bonne. Enfin, vraiment, bon, on a été très inquiet au départ. Hein. On est très préoccupé de savoir si ça allait bien se fonctionner. Là, pour une première édition, on a eu des retours très positifs de la part bon, des participants, mais aussi de la part des artistes qui sont venus et qui, là encore, des auteurs et des illustratrices ce matin me disaient vraiment, pour une première édition, vous avez fait à la fois fort en niveau et c'est quand même très très bien organisé. C'est vraiment, donc on est assez satisfait, voilà, même si à un moment on a été assez inquiet.
On a fait le tour de l'arbre, on a bien exploré ce festival Lire perché dans l'arbre. Merci à tous les intervenants qui ont été d'une grande patience et d'une grande gentillesse. Merci à vous de votre écoute. N'hésitez pas à laisser des commentaires si l'épisode vous a plu sur la plateforme de Créodyssée. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de vous et restez curieux.